bonjour, buenas tardes, boa tardes, et que viva la música en espagnol, que viva música en portugais. Notre promenade brésilienne du premier lundi du mois. Pour une fois, nous n'avons pas eu comme générique Samba do Ernesto, parce que le pauvre Ernesto, il n'est pas là. Il est en train de souffrir chez son dentiste, donc on lui souhaite bonne chance dans cette épreuve. Et c'est notre grand ami Sidi qui m'accompagne à la technique. Bonsoir Sidi, ça va bien? Donc on va entendre aujourd'hui, d'où le changement de ce générique, uniquement des souffleurs. Oui, en effet, quand on se représente un musicien brésilien en France, en général, on imagine quelqu'un aux percussions, à la guitare ou au chant, même quelquefois au piano. Mais on oublie que ce pays nous a donné un nombre impressionnant de flûtistes, de saxophonistes, de trombonistes, de trompettistes de génie. Depuis le début du XXe siècle jusqu'au dernier dont on parlera aujourd'hui, Raul de Souza, qui est disparu cette année à Paris. Donc là, on va encore entendre un petit peu leur père à tous, Pixinguinha, qui fut un flûtiste et un saxophoniste et compositeur et chef d'orchestre qui a joué pendant près de 80 ans au Brésil et qui est considéré comme un des pères de la musique populaire brésilienne d'aujourd'hui. Donc Pixinguinha, leurs ancêtres à tous pour commencer. Ça, c'était enregistré en 1946, Proezas de Solon, où on entend donc le maître Pixinguinha, dont je viens de parler, qui est au saxo alto, et son compère et compositeur avec lui de ce morceau, Benedito Lacerda. C'est la période où Pixinguinha, qui avait surtout enregistré à la flûte autour de 1918-19 jusqu'à la fin des années 30, passe de plus en plus souvent au saxo, Et donc, on a comme ça, dans ces années-là, de splendides duos où on a l'impression que les deux compères posent des questions, répondent, ou que l'un fait un contrepoint derrière le solo de l'autre. Donc, on avait déjà deux souffleurs de très grande qualité de cette génération des années 1900 et qui a joué jusqu'aux années 1970-80. Et j'en viens à l'autre extrémité de cette séquence historique, puisque, je l'ai annoncé, un très grand tromboniste brésilien qui, on va le voir au cours de l'émission, a joué avec une pléiade de grands musiciens pendant toute sa carrière, a passé ses dernières années à Paris et il est mort au printemps 2021. Donc on va lui rendre hommage avec plusieurs morceaux dans différents styles qu'il a joué dans sa vie. Ici, on commencera par la fin, en quelque sorte, quand s'être promené dans de la musique brésilienne au jazz états-unien, il est revenu avec beaucoup de maturité dans ses toutes dernières années aux musiques purement brésiliennes. Et donc un premier exemple avec cet enregistrement de 2016, au titre américain, bien que ce soit la musique très brésilienne, Brazilian Samba Jazz. C'est Raul de Souza au trombone. Thank you. Donc c'était un enregistrement de 2016, un des derniers albums que Raoul Sauze, récemment disparu, avait enregistré. Donc ici, il est leader, on l'entend beaucoup au trombone, autant pour exposer le thème que dans les solos de son groupe, et dans ce morceau qu'il a composé au titre « On ne peut plus clair », c'est comme une définition, c'est du samba jazz brésilien. Donc s'il est capable de ce swing velouté, il est aussi capable de composition et d'interprétation beaucoup plus romantiques, comme celle de ce même album de 2016 intitulé « Ilha do Mel », « L'île du miel », vous entendrez, c'est sucré, presque sirupeux, mais c'est délicieux. S'éteint dans une espèce de dernier souffle du trombone qui nous a fait rêver à la Ilha do Mel, l'île du miel. Cette douceur que Raoul de Sousa, dans ses dernières années, savait distiller dans ses compositions et ses interprétations. S'il fut une époque où au Brésil, les souffleurs, donc les flûtistes, les saxophonistes, les trompettistes, les trombonistes étaient au sommet de l'actualité musicale. à l'époque où ce type de musique était fort peu écouté à l'étranger. Donc cette époque très qui a été la gloire des souffleurs, ça a été les années 40-60, celle des grands orchestres, alors quelquefois dans les compiles aujourd'hui on appelle ça les big bands brésiliens, pour souligner l'influence nord-américaine. On verra qu'il y avait d'autres influences, on va l'entendre tout de suite avec un de ces orchestres qui a écumé les scènes des hôtels de luxe et des casinos. C'est la musique pour Jean Chic un peu au Brésil à cette époque-là. Severina Araújo et son orchestre Tabajara. Le morceau s'intitule Paracadiste, le parachutiste. Et vous verrez que quand on écoute bien, on a l'impression que chacun des instruments solistes a son tour fredonne ou chante. On entend en quelque sorte la voix humaine dans chacun des instruments. Paracadiste de Severino Araújo et son orchestre Tabajara. Donc c'était enregistré en 1946, Paracadiste de Severino Araújo et son orchestre Tabajara. Donc c'était ce genre musical qu'on commence à bien connaître dans cette émission, le choro, où il y a des successions d'improvisations à partir de thèmes sur des rythmes qui sont le plus souvent ceux de la samba, mais qui peuvent être quelques autres. Aujourd'hui, on a plus tendance à jouer avec des instruments à cordes, les guitares, la guitare à sept cordes, la mandoline, mais qui, dans cette époque, a été vraiment l'apanage d'un certain nombre d'orchestres d'instruments à vent. Un autre qui a fait les beaux jours de ces années-là est l'orchestre d'un saxophoniste surnommé Fonfon. Donc, on a à chaque fois sur les plage des disques, Fonfon et soit orchestre. On pense qu'il avait été surnommé comme ça, parce que Fonfon, c'est le nom populaire du klaxon. Et l'époque, dans les années 20-30, quand les gens jouaient du choro avec un instrument avant, c'était plutôt la flûte ou l'instrument avant le plus proche dans les aigus qui était le saxophone soprano. Et lui jouait souvent du saxo ténor, surtout dans les graves, et c'est ça qui, par dérision, gentil mais dérision quand même, l'a fait appeler le klaxon. Donc ici, Fonfon et Souhait Orchestre. Fonfon était aussi le premier qui, dans les années 30, avait monté des orchestres uniquement de vent et percussion, sur le modèle des brass bands américain. C'est pas tout à fait le cas ici. Il y a beaucoup de vent, mais on entend aussi un piano, etc. Donc, dans cet enregistrement de 1947, Umbaile Katumbi, on va voir le jeu de questions de réponses entre les instruments avant. Orchestre, Umbaile Katumbi. Alors on a souvent discuté, vous savez que souvent les spécialistes, les historiens, les musicologues aiment bien couper un peu les cheveux en quatre sur l'origine de ces big bands brésiliens. Il y a des gens qui parlent de l'influence états-unienne, d'autres à juste titre montrent que certains de ces morceaux sont orchestrés un peu comme les grands orchestres cubains de l'époque. Il y a une troisième influence, peut-être encore plus marquante pour certains, c'est celle des orchestres de frevo venus du nord-est du Brésil, du Pernambuco. On en a déjà parlé dans cette émission, le frevo, qui initialement a été joué par des fanfares militaires qui faisaient des compétitions au moment du carnaval de Recife, est une musique qui se joue essentiellement par des orchestres de rue d'instruments à vent et percussions. Et c'est peut-être pas tout à fait un hasard si ces deux maîtres des orchestres d'instruments à vent des années 40 à 60, qui ont été Fonfon et Severino Araújo, étaient tous les deux originaires de cette région du Pernambouc, où on joue tellement des instruments à vent. Et pour en donner une idée, j'ai pris ici un échantillon de Frevo. Celui-là est d'une composition de 1937. L'enregistrement est beaucoup plus récent, hein, mais on a repris tel quel l'arrangement de 1937. L'histoire est curieuse parce que le compositeur, bien qu'étant nordestin, avait initialement composé ce qu'il croyait être une samba. Et un des musiciens justement de cette fameuse brigade militaire, la brigade militaire qui joue ces airs de carnaval à Recife, et lui dit: moi, quand j'écoute ça, j'entends pas vraiment le style de samba. Tu as qu'à modifier certains détails du rythme, un tout petit peu la mélodie, et tu verras, ça fera un Frevo du tonnerre. Et l'ironie de l'histoire, c'est que c'est celui-là qui a gagné le concours du carnaval de Recife en 1937. Donc, recette pour transformer un samba en Frevo, ça donne ce Frevo de 37, Freio a Ar. Donc ce Frevo composé en 1937 était ici joué par l'orchestre de la police militaire de Pernambouc. Alors pour un Français, ça fait rêver. Essayez d'imaginer que nous fassions des carnavals dont la musique soit animée par des orchestres de la police. Peut-être que les notions de maintien de l'ordre évolueraient un peu. En tout cas, c'était vraiment ça, c'est le son par excellence du carnaval de Pernambouc, qui était descendu nourrir les sonorités des grands orchestres de Rio. On va en entendre encore maintenant, on est un peu plus tard, on est à la fin des années 50, où ces orchestres deviennent de plus en plus importants et nombreux. On va entendre ici l'orchestre de Radamés Guinatal, ici dans Copacabana. Radamés Guinatal a été un très grand compositeur, chef d'orchestre, aussi bien dans la musique symphonique, ce qu'on appelle habituellement la musique classique, que quelquefois comme accompagnateur de chanteuses et de chanteurs célèbres de l'époque. Et il lui est arrivé aussi de diriger des grands orchestres de variété. Donc on entend maintenant dans cet enregistrement de 1958. Thank you. entendez Copacabana sous la direction de Radames Knatali, grand orchestre donc qui enveloppe d'un grand nombre de cuivres un rythme de samba qui se fait discret derrière. Alors typiquement, c'est ce qu'on pouvait entendre dans les salons du grand hôtel de Copacabana où défilaient les puissants et les riches de ce monde. Et l'influence du jazz se marque encore plus quand on va entendre une interprétation d'une chanson célèbre, une chanson brésilienne célèbre, Dora. Encore Severino Araújo qu'on avait entendu tout à l'heure. Et là, c'est des arrangements d'un grand big band avec une espèce de swing qui l'amène plus du côté du slow américain que d'autres choses. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit susciter l'admiration d'un certain nombre d'arrangeurs, tellement c'est précis et délicat. Donc Dora, par le grand orchestre de Severino Araújo, c'est on est en 1959. Dora, en 1959, par le grand orchestre dirigé par Severino Araújo. On imagine des messieurs en costume blanc dansant avec des dames en robe du soir dans les palaces ou les casinos de Rio. Les musiques qu'on vient d'entendre des années 40 à la fin des années 50 continuent à être jouées par un certain nombre de musiciens. Et on continue à composer des choros instrumentaux, en particulier ici, on a un enregistrement de 2011 de deux compères de 50 ans de carrière musicale, Zed Avella, qui est un tromboniste connu comme un des plus grands maîtres du choro contemporain au Brésil, et son ami Silvério Pontes, donc à trompette, et tous les deux donc ici jouent une de leurs compositions qu'ils réenregistrent en 2011 qui s'intitule Velhas Pontes. Au dialogue entre la trompette et le trombone dans cette œuvre de Silvério Pontes et Zed Avella. Pour l'anecdote, Zed Avella, son surnom de scène, dit bien l'histoire de la transmission des musiques de génération en génération, puisqu'on lui a donné ce surnom quand il avait 16 ans, en 1958, parce qu'il était le plus jeune à jouer dans un orchestre qui s'appelait Avella Guard, la vieille garde, puisqu'il jouait avec des gens qui avaient l'âge d'être ses grands-parents, qui avaient été les gens qui avaient inventé pratiquement et mis à l'honneur et fait connaître populairement le shodo, Pichinguin, Adong, etc. Donc ce petit jeune homme était le petit de la vieille garde. Et maintenant, il a largement dépassé l'âge avec ceux avec qui il avait commencé à jouer à l'époque. Après ces années 50, on a connu l'époque alors, où, pour la plus grande partie du monde, le nom de la musique brésilienne, c'était la bossa nova, qu'on a surtout entendu avec un certain nombre de chanteurs, chanteuses. On entend la guitare, on entend le piano. Il y a eu aussi pas mal de souffleurs. Alors, comme on aura prochainement l'occasion de faire toute une émission sur la bossa nova, on va passer un peu vite, mais on ne peut pas les oublier. Donc, on va entendre ici un morceau alors qu'on retrouve titré de deux manières différentes selon les éditions des disques, soit « Land of Nobody » dans un disque intitulé « Marcus Valle Plays Deodato plays the music of Marcos Valle », soit dans son original brésilien, ça s'appelait Terra de Ninguém, et c'était un groupe que Deodato avait créé qui s'appelait Os Catedráticos. Juste un mot sur les trombones, parce que il y en a deux qu'on entend dans ce groupe, Edson Maciel et Raul de Souza. Raul de Souza, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Edson Maciel, on va le retrouver. C'était des gens qui écumaient les studios de Rio et aussi quelquefois de New York. On va bientôt le voir. c'était Land of Nobody ou Terra de Ninguém, joué par Ushka Tedraticus dans un arrangement de Eomir Deodato. Et parmi les musiciens, je disais, il y avait deux trombonistes dont on parle à plusieurs reprises dans cette émission. Ici, entre autres, Edison Maciel, qu'on va entendre dans le morceau suivant, qui lui est un disque qui a été enregistré par un musicien qui est un météore dans l'histoire de la musique instrumentale brésilienne. Il avait, au moment où il enregistre cet album, en dirigeant son propre groupe, il a 22 ans. Il s'agit de Vitor Assis Brasil. Le disque s'intitule Trajeto. Et Vitor mourra peu de temps après, à 34 ans seulement. Ici, donc, on a un morceau de pur jazz intitulé Stolen Stuff. Et de nouveau, on retrouvera Edison Maciel au trombone.
Thank you.
Et on vient d'entendre donc ce morceau de Vitor Assis Brasil qui joue du saxophone et dirige ce groupe où l'on retrouve d'autres musiciens, je le disais, qu'on entend de cette émission, Edison Maciel au trombone. Sur une autre plage de ce disque, dans le groupe de saxophonistes, il y a aussi Paolo Mora qu'on va entendre dans quelques minutes. Mais il y a une période à la fin des années 60 où... d'une part, on trouve souvent dans les témoignages des musiciens brésiliens, il est extrêmement difficile d'enregistrer des disques de musique purement instrumentale et il est très difficile de gagner sa vie avec ça. C'est pour ça que ces noms-là, on les retrouve comme accompagnateurs de la plupart des vedettes de la chanson. Et par ailleurs, un certain nombre d'entre eux montent aussi des groupes plus adapté à ce qu'une nouvelle jeunesse à la fin des années 60, début des années 70 veut entendre, et des orchestres de danse. Donc on va entendre un premier ici dirigé par Wilson Das Neves, qui est un très grand batteur de bossa nova, de samba, de jazz, qui à la fin de sa vie reviendra à composer lui-même et chanter des sambas. Mais à ce moment-là, il fait de la musique de danse et ça a été une des périodes de sa vie où il a bien gagné sa vie parce que ça cartonnait en boîte au Brésil, un morceau intitulé Brazzaville. Brazzaville. Donc ça, c'est quand le batteur Wilson Das Neves avait monté un orchestre de musique de danse, essentiellement. On sent des influences venues de la soul américaine, un peu des Caraïbes. Et dans ces mêmes années, Wilson Simonal, qui était très connu, fait une reprise qui a dû scandaliser les conservateurs et les puristes d'un des monuments de la chanson brésilienne, Nabaixa do Sapateiro, cette chanson que Ali Barros avait écrite en 1938 et qui est devenue, je crois, le premier grand tube brésilien aux États-Unis dans les années 40. Ici, il reprend dans une version funky où on entend justement les cuivres font exactement le même travail qu'à l'époque dans la musique soul ou funk aux États-Unis font les cuivres, c'est-à-dire quelque chose qui sert essentiellement à faire repartir et rebondir le rythme. Donc ici, Nabaixa do Sapateiro par Wilson Simonal et son orchestre. Mmh.
pensamento. Bahia, oh, Bahia, Bahia, que não me sai do pensamento. Oh, Bahia, oh, Bahia, Bahia, que não me sai do pensamento. Oh, Bahia. Bahia, terra da felicidade, morena, eu ando louco de saudade. Meu senhor do bom fim arranjou outra morena igualzinha pra mim. Oh, Bahia, Bahia, que não me sai do pensamento. Oh, Bahia, oiê, meu irmão, oiê, minha mamá. Recuerdo de Bahía, donde yo dejé allá. Oh, baby, do you hear me? Come on, everybody, do you hear me? Listen me. Oh, why don't you want to stay here? I really go back to Bahía,
Et donc c'est au début des années 70, Wilson Simonal s'amuse comme un fou avec cette belle vieille chanson, un magnifique samba des années 30, à le reprendre d'une manière très funky, à se mettre dessus, improviser en espagnol, en anglais, de quoi faire frémir les conservateurs de la samba, mais la transformer, jouer avec, c'est toujours une manière de la respecter. Et c'est un peu le même genre de choses que fait Raoul de Sauze en 1974, notre tromboniste dont on a déjà parlé. C'est la période où ça fait 2 ans qu'il est parti aux États-Unis pour tourner avec l'orchestre du percussionniste Ayrton Moreira. Et ici, il fait un album entier sous son propre nom en réunissant ses musiciens. Ayrton Moreira là-dedans est producteur mais n'a pas joué de percussion. Et on va entendre une première version aussi où on retrouve de la soul et du funk d'une chanson qui existe depuis le début des années 60 au Brésil, Nanan, qui avait été dans la bande son du film Ganga Zumba. Thank you. entendait au trombone Raoul de Sauze, à la tête d'un groupe qu'il avait formé, mélangeant des musiciens états-uniens et des musiciens brésiliens. C'est l'époque où, aux États-Unis, il devient très ami avec un des monstres sacrés du trombone jazz, qui était J.J. Johnson. Et un témoignage du fait qu'il a été tout de suite très reconnu dans le milieu des musiciens nord-américains, c'est qu'on va voir que dans ce même disque, il fait une interprétation très particulière du Canto de Oceania, cette chanson qu'avait créé Baden Powell et Vinicius de Moraes, en lui donnant un swing très classiquement jazz. Et surprise, il y a un invité qui apparaît à un moment pour un solo de saxo, et c'est rien moins que Cannonball Adderley, qui était un géant du jazz à l'époque, et bon, qui par amitié vient faire un petit tour sur son disque. Donc on entend Canto de Oceania par Raoul de Sauze en 1974.
Thank you.
on entendait ici donc Raul de Sousa qui emmenait le cant du Hossania dans les terres du jazz états-unien. On va entendre maintenant quelques morceaux d'un très grand saxophoniste brésilien, Paulo Moura, qui a été un touche-à-tout. Il a été un peu plus de 20 ans le premier musicien noir à occuper le titre de premier clarinettiste du Théâtre Municipal de Rio, qui est l'équivalent en France de l'Opéra de Paris, donc reconnu dans le domaine très fermé de la musique symphonique classique. Il a joué du show, de la samba, du jazz, et puis quelquefois, ce qui est gênant, je pense, pour sa carrière discographique, c'est que dans chacun de ses disques, il y a un peu de tout. Et d'ailleurs, souvent, les titres de ses albums le disent. Celui-là, par exemple, s'intitule « Gafieira, etc. Itao ». Ce qui veut dire « Gafieira », c'est la musique de samba à danser, danse de salon, etc. et tout ça. Et effectivement, il y a divers styles. On va entendre ici quelque chose qui résume un peu ce qu'était le bonhomme. « Alma brasileira », l'âme brésilienne. Thank you. Donc dans ce morceau de samba du Gaffier, la samba qui se danse, danse de couple à deux, on entendait aussi un couple de souffleurs, puisque à Paolo Moura à la clarinette répondait quelqu'un qu'on a déjà entendu tout à l'heure, Zed Avelia au trombone. Mais dans d'autres enregistrements, par exemple ici en 1976, dans l'album qui montre de nouveau qu'il y a de tout, Confusion urbaine, suburbaine et rurale, la confusion urbaine, banlieusarde et rurale. Un disque d'ailleurs, chose rare, produit par le chanteur de samba Martin Udaville. Il joue avec le grand pianiste Wagner Tiso avec, et aux guitares Tony Hort et Rosinha di Valença, qui sont aussi des maîtres du genre. Et ici, il adapte à sa manière un samba mélancolique de Martin Udaville, Si algún día. Romantique du saxophone de Paolo Moura avec son grand orchestre et l'apparition des violons en arrière-plan dans ce samba nostalgique, c'est Algondi. Et puis Paolo Mora, il ne faut pas l'oublier, était aussi un très grand musicien de jazz. Et on va en avoir un exemple pour aller tout doucement vers la fin de notre émission avec ce blues intitulé Lavadera Blues, le blues de la lavandière, celle qui lave le linge pour que les musiciens soient tout beaux, tout propres sur la scène. C'est ici de son groupe qu'il avait formé pour un album en 1987, le Quartetto Negro. Alors le quartetto ici, il est réduit à un trio puisqu'il n'y a pas de chanteuse, donc on entend uniquement Paolo Mora à la clarinette avec Jorge De Geis à la basse et Gialma Correa aux percussions. Lavadera Blues de Paolo Mora dans le Quartetto Negro.
Thank you.
ce dernier souffle de la clarinette de Paolo Moura, nous vous disons au revoir jusqu'au mois prochain sur le 88.4 Radio Galère, qu'on retrouve aussi avec radiogalère.org. Et vous retrouvez d'ici quelques heures cette émission sur les podcasts, sur le site de l'émission sur radiogalère.org. Bon, à bientôt, a te log, hasta luego, et que vive la musica, que vive la musica, que vive la musique. Et merci Sidi de m'avoir accompagné pendant une heure et demie.
Radio Galère 88.4.